100% des gagnants ont tenté leur chance. Ça, c'est un vieux slogan de la Française des Jeux, mais les chiffres ne sont pas toujours aussi réjouissants. Il y a celui-là, par exemple. Une chance sur 140 millions de gagner à l'euro-million. C'est toujours utile de regarder les probabilités. Et puis, une enquête de la Société d'entraide et d'action psychologique sous la houlette de l'autorité régulatrice des Jeux en France l'a montré hier. On compte aussi un joueur sur trois parmi les mineurs et plus d'un jeune sur dix aurait même une pratique des jeux à risque. Le tout dans un secteur en pleine expansion favorisé par cette volonté de fuir peut-être à la crise sanitaire. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Jean-Michel Coste, chercheur, membre du Collège de l'Autorité Nationale des Jeux qui régule les jeux d'argent en France. Bonjour.
Bonjour.
Et Marilyn Tovar, responsable du pôle innovation et expérimentation sur le jeu excessif à la CEDAP. Bonjour.
Bonjour.
C'est une surprise pour vous de découvrir ces chiffres concernant les jeunes alors que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs aujourd'hui.
Ce n'est pas une surprise parce qu'en 2014, il y avait déjà eu une première étude qui avait été réalisée sur un effectif moindre qui nous montrait déjà qu'il y avait un tiers des jeunes qui étaient concernés par les jeux d'argent et de hasard.
Et comment se fait-il que l'interdiction ne soit pas respectée puisque c'est interdit ?
Alors l'interdiction,
Jean-Michel Coste.
Oui, excusez-moi. C'est l'interdiction de l'offre de jeu et non pas l'interdiction de jouer. Et effectivement, elle est pas très effective. Mais de toute façon, les mineurs arrivent à contourner sans problème cette interdiction. Mmh. Voilà. Et l'enquête confirme simplement que l'interdiction n'est pas la seule solution pour prévenir les problèmes de jeu d'argent.
Marilyn Tovar, le mécanisme de l'addiction chez les jeunes, il est différent, il est plus fort peut-être ?
Plus fort par rapport aux adultes ?
Oui.
Non, on a entre autres le même schéma, c'est-à-dire que les usages excessifs, les usages modérés sont identiques, sachant que souvent, n'oubliez pas que ces jeunes ont démarré avec leurs parents. Donc il y a peut-être
alors
aussi,
ça c'est une vraie question.
Il y a peut-être aussi une copie de ce que les parents font que l'on trouve chez les mineurs.
C'est vrai que les parents accompagnent, d'après votre étude, accompagnent les jeunes. On a des chiffres qui montrent qu'ils jouent avec eux en fait.
Tout à fait. L'initiation de jeu se fait à la maison dès le très jeune âge et l'on retrouve donc des jeunes qui après s'autonomisent, qui deviennent, je dirais, qui pratiquent tout seuls au fur et à mesure qu'ils avancent en âge.
70% des parieurs ont moins de 34 ans. Vous dites que ce n'est pas une question de mécanisme d'addiction, alors c'est une question de quoi, Jean-Michel Coste, pardon.
Oui, je n'ai pas...
Je disais 70% des parieurs ont moins de 34 ans.
Oui.
Si ce n'est pas une question de mécanisme d'addiction, c'est ce que disait Marilyn Tovar, c'est une question de quoi ? Comment ça se fait ?
Ça témoigne en fait d'une tendance émergente très, très lourde qui est la montée en charge des paris sportifs qui se fait également en population adulte, mais aussi chez les mineurs. Et on le voit dans l'enquête, c'est le deuxième jeu pratiqué après les jeux de loterie, grattage et tirage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on regarde la question du jeu problématique, c'est-à-dire les difficultés liées au jeu, la nature du jeu est un facteur absolument prédominant. C'est-à-dire qu'il y a relativement peu de problèmes de jeu avec les jeux de loterie et beaucoup plus avec les paris sportifs. Et une autre tendance émergente aussi, c'est la montée en charge d'Internet, sans doute liée partiellement avec le phénomène de la crise sanitaire. Mais là aussi, c'est préoccupant parce qu'on connaît le facteur de risque, c'est-à-dire le jeu sur Internet a plus de risques que le jeu en point de vente.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que l'accessibilité est beaucoup plus forte. Sur Internet, vous pouvez jouer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucun regard extérieur. Et voilà, donc c'est en partie ce qui explique la dangerosité potentielle de ce support de jeu.
Marilyn Tovar, Jean-Michel Coste parlait de jeu problématique. Est-ce qu'on peut juste faire un petit point avec vous sur qu'est-ce que c'est que le jeu problématique ? Comment on identifie le jeu problématique ?
Il est identifié par rapport à une question qui est un indice canadien qui revient à partir de l'indice canadien du jeu excessif, qui est un indice qui a été créé pour mesurer, repérer les pratiques excessif ou problématique. Et cet indice, ce sont 9 questions qui sont posées et le résultat qui est calculé donne, un score qui permet de savoir si le jeune est dans une pratique récréative ou s'il est passé dans une pratique excessive.
Alors, quelques exemples de questions peut-être pour que nos auditeurs sachent s'ils sont ou si leurs enfants sont dans une pratique problématique. Jean-Michel Coste.
On va leur demander si, par exemple, une question clé sur les problèmes de jeu, c'est demander si, après une perte, ils vont vouloir rejouer pour récupérer leur perte. Ça, c'est par exemple une question, une des 9 questions qui est signe d'un problème. Et sinon, il y a des questions qui tournent autour du ressenti. Évidemment, c'est autodéclaratif, mais de difficultés relationnelles, de difficultés psychologiques liées à leurs problèmes, à leur pratique de jeu d'argent.
Et c'est ça qui permet de définir le jeu problématique. Julien nous appelle du Jura. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour, merci de prendre ma question.
Vous avez donc une question pour nos invités, allez-y.
Oui, donc moi j'aimerais savoir si les études montrent une corrélation entre l'augmentation des problèmes et la privatisation de la Française des Jeux et l'ouverture des paris en ligne. Donc est-ce que cette dérégulation est corrélée, il y a une corrélation avec les augmentations.
Merci pour votre question, Julien. Jean-Michel Coste, peut-être, c'est vrai que là, il y a une ouverture à la concurrence des jeux d'argent depuis 2010, et effectivement, vous en parliez tout à l'heure, le développement des paris en ligne.
Oui. Alors, pour ce qui est de la privatisation, de toute façon, elle a été décidée très, très récemment, donc aucune étude n'est en mesure de mesurer ce fait. Sur la question du jeu en ligne, évidemment, un élargissement de l'offre va de pair avec une augmentation des problèmes. On sait qu'il y a un lien entre les deux.
Pour compléter, c'est la première étude réalisée en France qui va aussi loin dans, je dirais, les pratiques, les comportements, les usages. Donc on est sur la toute première étude. Donc il va falloir, je dirais, refaire un point dans quelques années pour voir un peu cette évolution par rapport à ce comportement.
C'est ça, on n'a pas de base de départ pour faire vraiment...
Là, on est à la base de départ aujourd'hui.
Pour faire vraiment la comparaison, alors les jeux d'argent marchent bien, à la fois les jeux classiques, les paris en ligne, on le disait, il y a les JO en ce moment, en novembre, il y a la Coupe du Monde de football qui devrait bien marcher aussi. La Française des Jeux, et là on voit une évolution, affiche un résultat en hausse de 37,6% par rapport à 2020 l'an dernier. Chiffre d'affaires 2,25 milliards, une hausse espérée de 4 à 5% par an, je m'arrête là avec les chiffres. Comment on explique ce dynamisme, Marilyn Tova?
Ça va m'être difficile de répondre parce que moi je suis sur l'observation des comportements de mineurs. Oui. Donc j'ai aucune, je dirais, possibilité d'analyser les données de la Française des Jeux.
Et sur les comportements des mineurs justement.
Sur les comportements des mineurs, on voit qu'ils sont
consommateurs aussi.
Ils sont usagers. Oui, ou consommateurs de jeux ou pratiquent des jeux, mais on n'a pas vraiment de lien ou de corrélation avec ce qui se passe à la Française des Jeux.
Jean-Michel Coste.
Oui, vous pourriez compléter vos données par le fait que la progression la plus importante, c'est non pas la Française des Jeux, mais les paris sportifs. Et les paris sportifs, sur cette période, ont augmenté encore plus fortement. Alors évidemment, on n'est pas sur la même base de départ, c'est-à-dire que massivement, les Français jouent beaucoup plus aux jeux de la Française des Jeux. Mmh. Donc ça, c'est un constat extrêmement fort. Alors pourquoi ça a augmenté? C'est vrai que c'est une tendance qui est très longue, qui n'est pas forcément corrélé avec cette période de confinement.
Ouais. Mais ça n'a pas favorisé.
Non, alors je pense que indirectement la période de confinement a favorisé le switch qui commence à se produire entre le online, enfin c'est-à-dire le jeu en ligne. Et le jeu en point de vente traditionnel, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est aussi lié à la grande normalisation des jeux d'argent et à la pression publicitaire aussi qui est extrêmement importante.
On a une question d'ailleurs d'une auditrice, alors qui ne veut pas témoigner de vive voix, mais qui nous dit: j'en veux à tous ces sites qui font tourner la tête des jeunes et qui n'arrivent pas à prendre du recul, Marilyn Tova.
Oui, en effet, ils sont très sollicités, que ce soit par dans leur pratique de jeux vidéo, il y a une sollicitation pour les faire basculer dans le jeu d'argent. Dans tous les sites de réseaux sociaux qu'ils consultent, que ce soit Facebook ou tous les autres sites, ils ont une sollicitation. Et même sur leur portable, ils ont régulièrement des sollicitations pour aller jouer. Donc c'est sûr qu'on a, je dirais, une forte pression pour pouvoir les amener au jeu.
Et Jean-Michel Coste, la publicité pour les jeux en ligne, elle est autorisée. Mais ce qui n'est pas autorisé, c'est de viser les mineurs.
Oui, tout à fait. Mais quand vous visez des espaces culturels qui sont dont les mineurs sont très friands, quand vous ciblez des populations très proches des mineurs, c'est-à-dire les 18-25 ans, comme le font pas mal les paris sportifs, et puis surtout quand vous normalisez, comme on le fait, les espoirs d'accès à la réussite sociale que pour les parents, forcément ça déteint aussi sur les mineurs.
Alors je vous cite le témoignage d'un autre auditeur qui s'appelle Bernard, un ancien buraliste, qui dit que dans sa commune, des jeunes jouaient de grosses sommes pour blanchir l'argent de la drogue. Si vous refusez d'accepter, les jeunes clients vous menacent. C'est-à-dire que la vente est interdite, vous le disiez, aux mineurs, mais c'est pas toujours facile à faire respecter de la part des buralistes.
Oui, alors effectivement, mais il y a quand même une évolution sur le long terme de la Française des Jeux qui passe du ce qu'on appelle d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. C'est-à-dire que maintenant, la Française des Jeux mène ce qu'on appelle des enquêtes mystères auprès des points de vente, et elle vient de déclarer tout récemment qu'elle allait passer à un mode de sanction pour les buralistes qui ne respecteraient pas ce principe d'interdiction de l'offre de jeux aux mineurs.
Marilyn Tovar, chez nos voisins, est-ce que vous savez comment on fait pour combattre éventuellement les dérives, notamment chez les mineurs, le jeu dangereux?
Il y a très peu d'études réalisées en Europe, je dirais, sur cette population de jeunes mineurs. Par contre, c'est surtout, je dirais, dans les pays anglo-saxons comme le Canada, l'Australie, l'Angleterre.
Que c'est très libéralisé là-bas, voilà. Il y a des échoppes à tous les
coins
de rue.
Donc ils sont déjà, je dirais, plus en avance que nous sur les études, étudier les pratiques des mineurs. Ils sont déjà nettement plus en avance. Donc évidemment, leur loi, tout ce qui est prévention, soins, accompagnement, est beaucoup plus important.
Jean-Michel Coste, on parlait de l'ouverture à la concurrence tout à l'heure. Vous dites qu'il n'y a pas d'effet visible de l'ouverture à la concurrence sur l'addiction. Est-ce que ça rend malgré tout le secteur plus difficile à réguler peut-être aujourd'hui?
Alors la régulation, je découplerai les deux entre la privatisation et la régulation, puisque ce qui s'est passé en France, c'est qu'à la fois il y a eu privatisation et mise en place d'une nouvelle autorité unique sur les jeux d'argent, l'ANJ, avec des compétences renforcées. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué d'analyser les deux. Mais je crois, pour revenir sur votre question précédente, que ce qui est important dans une politique publique, c'est et peut-être ce qui se fait bien à l'étranger, c'est un meilleur équilibre sur les deux piliers ou les deux jambes d'une politique publique, qui est l'encadrement de l'offre, donc par l'interdiction, mais aussi, ce qu'on n'a pas en France, un meilleur encadrement de la publicité, c'est-à-dire une meilleure limitation. Tous les objets d'addiction, normalement, font l'objet d'encadrement très fort de la publicité. Et la deuxième jambe, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'on a construit comme une ligne Maginot, c'est-à-dire une interdiction de vente aux mineurs, mais si les mineurs, comme on le voit, peuvent la contourner très facilement, ces lignes Maginot, il n'y a plus rien derrière. Et ce qu'il faudrait par derrière, c'est une prévention, c'est-à-dire une prévention qui s'attaque, entre guillemets, aux comportements à risque et aux pratiques à risque.
Marilyn Tovar, très rapidement, une question d'une auditrice Delphine qui nous dit 70% des joueurs ont moins de 34 ans. Est-ce qu'on ne peut pas relier ça aussi à la montée de la précarité?
D'après l'étude et les résultats de l'étude, on se rend compte que les mineurs qui jouent sont ont des parents de niveaux sociaux très élevés. Donc ce n'est pas un problème on pourrait le penser que c'est plus on est en difficulté, plus on va jouer, je dirais, pour se refaire et pour récupérer du budget. Apparemment, non, ce sont des enfants de familles relativement aisées qui jouent.
Marilyn Tovar, Jean-Michel Coste, merci à tous les deux de nous avoir répondu sur France Inter.